Bien, Philippe Val, bonjour.
Bonjour Richard.
Tout le monde vous connaît, mais je vais vous présenter très rapidement. Vous avez plusieurs vies. Vous avez, de 1970 à 1996, été chansonnier, musicien, avec le duo célèbre de l'époque Fonval. À partir de 1992, vous y avez ajouté une autre activité, et qui est celle de directeur de journaliste, de directeur de publication. C'était Charlie Hebdo, entre 1992 et 2009. En 2008, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet, que chacun se rappelle. Et puis en 2015, à Charlie Hebdo, il y a eu, bien sûr, cet épouvantable assassinat qui a tué tant de vos amis, et parmi eux notamment Cabu, qui était votre tout proche. Vous avez été également directeur de France Inter pendant plusieurs années. Et puis, dans une dernière vie, vous êtes devenu un écrivain de livres tout à fait remarquable. Et en particulier, c'est le livre pour lequel je voulais vous interroger aujourd'hui et qui est sorti il y a quelques semaines. Un gros livre de 850 pages qui se lit de façon extraordinairement rapide, tellement il est passionnant. Tu finiras clochard comme ton Zola. D'où vient ce titre ?
Bien, quand j'étais adolescent, je me suis pris de passion pour les Rougon-Macquart et pour Émile Zola. J'ai commencé à lire tous ces romans absolument extraordinaires, et j'étais comme un enfant, comme un groupie qui aime une star, qui aime une rock star pratiquement. Avec Zola, c'était mon idole. Et donc j'ai beaucoup lu à peu près tout, et puis j'ai voulu tout savoir de Zola, évidemment. Donc j'ai lu aussi des livres sur Zola, j'ai lu et puis j'ai découvert Zola dans l'affaire Dreyfus, et mon idole d'un seul coup est devenu mon héros, en plus, parce que ça a été ma première leçon d'histoire. Avant, l'histoire m'intéressait pas, je pense, pas beaucoup, comme j'étais un enfant un peu dissipé. Mais là, tout d'un coup, l'histoire m'a passionné. Et j'ai tout su de l'affaire Dreyfus et de Zola dans l'affaire Dreyfus. Bon, j'étais pas mauvais en classe, et le directeur de l'établissement voulait que je fasse quand je suis arrivé à l'âge de la terminale, une terminale scientifique. Il avait dit à mes parents, de toute façon, les autres terminales ne servent à rien, ne débouchent sur aucun métier. Et moi, j'avais repéré qu'il y avait un professeur de philosophie en terminale. Je le voyais traverser la cour de temps en temps. Je me suis dit, il avait une dégaine. Je veux faire philo et je veux faire une terminale littéraire. Donc, c'était un gros conflit avec mes parents, qui voulaient que je fasse des sciences. Et j'ai refusé. Et mon père, à bout d'arguments, a replongé le nez dans le Figaro un soir pour clore le débat. Il a dit, très bien, ben fais ce que tu veux, tu finiras clochard comme ton Zola. Voilà, ça c'est. Et j'ai trouvé, pas sur le coup, mais plus tard, que c'était un très bon titre pour un livre.
Voilà. Oui, je crois que c'est une bonne occasion de rendre hommage à cet extraordinaire personnage qu'a été Zola. Le livre m'a passionné pour de nombreux aspects. Entre autres, parce qu'il présente une image extrêmement vivante d'une période qui était une période de jeunesse, qui a été un tableau artistique de la période des années 70, par exemple. Période dont j'ai l'impression que ça a été une espèce de basculement entre deux générations, la génération d'avant 68 et puis la génération d'après 68, deux générations qui ont un rapport différent avec l'histoire. Est-ce que vous pouvez là-dessus donner vos impressions ?
C'est très étrange parce que la première partie du livre se passe dans les années 50, enfin après-guerre, les années 50. Et sur toute la question de la guerre, les gens étaient muets, les gens parlaient peu, en tous les cas dans mon milieu, qui était un milieu majoritaire, je pense, en France. Ils ne parlaient pas de la guerre, certainement pas des crimes, de l'effondrement de l'Europe l'effondrement moral et l'effondrement, à tout point de vue d'ailleurs, de l'Europe, de cette Europe des Lumières, avec le nazisme. Ils ne parlaient pas de ça. Ils avaient occulté, je pense, ce passé. Et puis arrive 68. Arrive 68 et la jeunesse dit « du passé, faisons table rase ». Donc il y a eu comme une autre façon de vouloir occulter le passé. Cela dit, dans les deux cas, vouloir faire table rase du passé est toujours quelque chose de criminel. C'est une aberration de vouloir faire table rase du passé. Mais il y a deux refus du passé. Mais du deuxième refus du passé, c'est-à-dire de la génération de 68, il est né quand même quelque chose. Parce que très vite, on a vu que ce passé-là ne passait pas. Puisque dans les 2-3 années qui ont suivi, il y a eu la publication du livre de Paxton, La France de Vichy, puis les films, Le Chagrin et la Pitié, et puis les premiers procès de la collaboration et de l'antisémitisme d'État. Il y a eu l'histoire de Darquier de Pellepoix, il y a eu, etc. Donc il y a eu un réveil, et puis Lanzmann a commencé à tourner Shoah. Donc il y a eu quelque chose qui s'est produit là, le passé est revenu, Simone Veil, Simon Wiesenthal, enfin il y a eu beaucoup d'événements comme ça dans ces années 70.
Oui, Serge Klarsfeld en France.
Voilà, Klarsfeld, etc.
Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui nous sommes dans une troisième époque vis-à-vis du passé et que de nouveaux problèmes se posent ?
Oui, de nouveaux problèmes se posent. J'ai voulu raconter ces années 70 parce que la vie a fait que je ne suis pas resté cantonné dans mon milieu. Au contraire, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai travaillé dans toute la France, dans les petites villes, dans les villages, dans les grandes villes. Et j'ai vu une France qui était, dans les milieux culturels, indifférente aux origines, indifférente... Alors, dans le reste de la société, il y avait du racisme, mais c'était un racisme, j'allais dire, en voie d'être résiduel. Puisque dans notre milieu, qui était un milieu un peu d'avant-garde, si on peut dire, sur ces questions-là, il était fondamentalement antiraciste, les questions des origines ne se posaient jamais. De même, d'ailleurs, dans une certaine mesure, la question de l'homosexualité, qui n'était pas banale, mais presque. Et finalement, il y a eu un reflux à partir de l'arrivée de Khomeini au pouvoir à la fin des années 70, 79. Là, il y a une idéologisation de l'islam, une politisation de l'islam, qui a fait que j'ai vu disparaître les Arabes, jeunes femmes, jeunes hommes de ce milieu-là, notamment dans les régions ouvrières, alors qu'ils étaient des personnages et des acteurs, et du public, et des acteurs importants de cette vie culturelle. Donc c'était c'est une période, nouvelle période qui commence, et aujourd'hui, on est encore dans une autre période, on est dans la période d'après le 11 septembre et des réseaux sociaux. Je pense que la radicalisation au sein de l'islam est... L'inconscience qui a présidé à la mise sur le marché des réseaux sociaux nous fait vivre une autre période où les gens ne cherchent pas à savoir, que ce soit leur histoire ou leur actualité, d'où ils viennent, où ils vont, ils ne cherchent pas à confronter leur savoir à d'autres savoirs ou leurs opinions à d'autres opinions, mais ils vont chercher sur des réseaux sociaux la confirmation des pauvres choses qu'ils pensent déjà. Et c'est une troisième période pour la démocratie, je pense, et qui est une période où elle marche sur une glace de plus en plus fine et de plus en plus fragile.
Vous voulez dire que l'on ne se parle pas, on ne fait que confirmer... Au sein de son groupe, les idées que l'on a à l'intérieur du groupe.
Absolument. C'est le problème. Je pense que c'est une bombe atomique contre la démocratie. Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas être d'accord avec quelqu'un. On est ennemi avec quelqu'un.
Et donc vous mettez...
Ça rend la société mondiale tribale. Alors qu'on avait réussi, après la guerre, à construire une Europe non tribale, où pour la première fois, il y avait des abandons de souveraineté sans guerre. Et là, cette... C'est ce cancer de la démocratie que sont notamment les réseaux sociaux. Ça pourrait être autre chose. Hein. Je ne sais pas que je sois contre. Je pense qu'il n'y a aucune régulation et que c'est de la folie qu'il n'y ait pas de régulation de ça. Ça crée une population sans histoire, qui n'a pas d'histoire, qui n'a d'histoire que les événements de la semaine. Ils ont une mémoire de poisson rouge. Et ils pensent avec cette mémoire de poisson rouge. Si vous voulez, sa devise, ça pourrait être « Je ne sais rien, mais j'ai tout compris ».
Pour vous, Philippe Val, ce que nous appelons un goy, qui oui. dites que vous êtes par rapport à votre fils comme une mère juive, pour vous, je voudrais que vous nous disiez quelle place joue l'antisionisme à l'intérieur de cette construction mentale qui aujourd'hui est tellement prévalente dans une partie que vous appelez gaucho-fasciste parfois
ça tient une base fondamentale parce que c'est par là que ça passe, on pourrait dire. C'est par là que passe, on pourrait dire, la pulsion de mort du singe humain. Très vite, dans les années 80-90, qui voulait ouvrir un peu les yeux a très vite compris, enfin Jean Kelevitch dès les années 70, mais que l'antisionisme était un antisémitisme. Par exemple, si vous aimez l'Italie, vous aimez l'Italie. Aujourd'hui, il y a Salvini qui fait partie du gouvernement italien. C'est pas une raison pour détester l'Italie. Vous plaignez, vous en aimez encore plus vos amis italiens. Comment se fait-il que c'est pas pareil pour Israël? Donc l'antisionisme qui fait porter à l'ensemble des juifs le moindre acte politique de la démocratie israélienne est forcément un antisémitisme. C'est voilà. Donc je pense que cet antisémitisme, cet antisionisme est un moyen de se reconnaître c'est un signe tribal. C'est un signe tribal qui permet aux ennemis de la démocratie de se reconnaître, aux ennemis du respect humain de se reconnaître, aux ennemis du droit universel, des gens à vivre en paix, d'aller, de venir et de s'exprimer librement. C'est un signe de ralliement très fort. Je pense que, par exemple, le racisme en général est une maladie d'une société. Mais l'antisémitisme n'est pas une maladie de la société. C'est une pulsion suicidaire d'une société démocratique. L'antisémitisme est un suicide démocratique.
Vous avez été un chansonnier, l'humour a été votre métier. Et aujourd'hui, on voit que l'humour de ricanement, l'humour de Dieudonné, peut avoir des effets extraordinairement néfaste, et vous dites dans votre livre que l'une des caractéristiques de l'humour, c'est de pouvoir coaliser des milieux d'idées, de positions extrêmement diverses. Et est-ce que justement cet effet coalisateur de l'humour n'est pas l'un de ces dangers?
Alors, il y a deux choses. D'abord, vous avez employé un mot très juste, qui est le mot ricanement. On confond aujourd'hui l'humour et le ricanement. Le ricanement est lui aussi une façon complice, c'est un clin d'œil entre celui qui parle et celui qui écoute, en disant, tu vois, on pense la même chose toi et moi, et je le dis d'une façon rigolote, qui au fond n'a rien d'étonnant, puisque je dis une chose que tu attendais que je dise. C'est comme sur les réseaux sociaux. Je dis ce que tu attends. Les gens viennent chercher ce qu'ils cherchent vraiment. Ils viennent trouver ce qu'ils cherchent. Une confirmation de leur bêtise, bien souvent. Ou de leur absence de connaissances. Enfin, les théories du complot, ça marche comme ça. Et donc, ce ricanement, précisément, il est l'expression d'un remplacement de la culture. Le ricanement a remplacé la culture. Tandis que dans une salle de spectacle ou quand on connaît un bon humoriste ou une bonne humoriste, il vous surprend sur scène. quand vous éclatez de rire, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous dites, oh, mais ah, c'est pas possible, je ne l'attendais pas. C'est ça, c'est l'humour fédérateur. Il faut une certaine culture. C'est une culture, ça. Et c'est. Quand des gens rient sous l'effet d'un étonnement, ça révèle l'humanité commune de ceux qui rient ensemble. Tandis que quand il rit dans le ricanement, ça ne fait que resserrer le clan sur lui-même. Donc c'est très différent. Je pense que les trois quarts de ce qu'on appelle aujourd'hui des humoristes ne sont pas des humoristes. Ce sont plutôt des prêcheurs. Ils prêchent souvent quelque chose d'ailleurs sous couvert d'une morale. Or l'humour n'est pas moraliste. Avant de faire l'émission, on bavardait tous les deux et vous m'avez parlé de Rabelais. Rabelais est tout le temps surprenant et c'est un grand humaniste. Il a rassemblé autour de son rire les meilleurs esprits et de son siècle et des siècles suivants. Les Lumières françaises en ont hérité. Les inventeurs de toutes nos libertés en ont hérité. C'est vraiment deux choses très opposées. Le rire clanique et le rire universaliste. J'ai lu des auteurs chinois qui sont vraiment merveilleusement drôles. Parce que c'est pas un humour clanique. Alors il y a un humour typiquement clanique chinois aussi comme chez nous, qui ne nous concerne pas et qu'on comprend pas. Mais il y a un humour universel qui nous fait rire. Voilà. D'où qu'on vienne.
Bien écoutez, merci Philippe Val. Je ne peux que conseiller à nos auditeurs de se mettre à lire ce très gros livre qui se lit à une vitesse incroyable, tellement il y a une richesse à l'intérieur.
Encore merci, une fois, merci Richard.
À bientôt.
À bientôt.